est l'amour inconditionnel.
Bienvenue à vous-même, mon cher.
Merci.
Et bienvenue à la France. Nous commençons d'abord par un commentaire sur la vie. Un jour, il y avait un vieux monsieur qui descendait de la montagne. Il venait dans la ville parce qu'il savait que ce jour-là, il y avait une grande fête. Mais en passant dans une rue, il s'arrêta tout à coup sur le pas d'une maison, à cause de l'odeur. Le propriétaire, qui était un jeune homme, s'approcha et lui dit, « Vous trouvez que ça sent bon? J'ai fait du pain pour tous les gens qui seront à la fête. »« Tu es généreux, » dit l'homme sage. « Bien sûr, » dit le jeune homme, « vous voyez, je suis nouveau ici. Personne ne me connaît. Et comme je veux que les gens me reconnaissent et m'apprécient, j'ai décidé de faire du pain. » Mais l'homme, plus âgé, regardant le jeune homme, vit à l'intérieur de lui que tout n'était pas transparent. Alors il lui dit, « Comment as-tu fait le pain ?»« J'ai pris de la farine avec des ingrédients, » dit le jeune homme. « Et où as-tu pris la farine ?»« C'est que j'ai moulu le blé, » dit le jeune homme. « Et où as-tu pris le blé ?» reprit le vieillard. Alors le jeune homme devint très inconfortable et il avoua qu'il avait pris le blé dans le champ de son voisin, mais que ceci ne ferait pas un grand creux dans sa récolte et qu'en retour, lui, il pourrait être aimé des gens. Il se défendait autant qu'il le pouvait, mais le vieillard lui dit, « Cesse de te juger, cesse de te condamner. » Tu n'as pas à te condamner, car la vie est ici une expérience. Si tu apprends, ta conscience s'ouvrira. Mais je ne sais plus quoi faire, dit le jeune homme. Maintenant que je sais que vous savez la vérité sur moi, je suis gêné d'apporter le pain. Et pourtant, si je vais sans rien apporter, il me semble que les gens ne me verront pas. Apporte ton pain, dit le vieillard. C'est bien. Mais cependant, apporte-le avec une conscience nouvelle. Alors le jeune homme partit avec ses grandes corbeilles. Il apporta le pain, le déposa sur les tables et alla s'asseoir à sa place. La fête commença. Quelques gens s'étaient aperçus que le jeune homme avait apporté du pain, mais n'avaient pas pour lui une attention plus particulière, le voyant bien comme un étranger. Au milieu de la fête, le jeune homme monta sur l'estrade et il raconta l'histoire à tout le peuple qui était là. Et il dit, « Je voudrais ce soir que vous ne mangiez pas le pain du mensonge, mais celui de la vérité, et c'est pourquoi je vous dis ce que je viens de faire. » Alors tous les gens de la foule se mirent à l'applaudir. Et les uns après les autres, ils montaient sur l'estrade et ils racontaient comment eux, ils avaient joué tous les tours de pirouette pour essayer d'aller quémander et chercher l'amour ailleurs. Alors le jeune homme dit, « Est-ce qu'il serait possible que l'homme sage vienne et nous enseigne sur l'amour ?» Alors, sans prétention, l'homme sage s'approcha et il dit, « Chacun d'entre vous, vous possédez dans votre cœur un grand champ où pousse le blé sacré, où vous pouvez faire le pain sacré que vous pouvez offrir à vos frères. Mais il vous sera impossible de l'offrir à vos frères si d'abord vous ne l'avez pas savouré vous-même. » Les uns dirent, « Mais est-ce que s'aimer soi-même n'est pas égoïste ? S'aimer uniquement pour soi-même pourrait l'être, » répondit le sage. Mais s'aimer en sachant que l'amour que l'on crée à l'intérieur de soi s'agrandit tellement qu'elle va contacter le monde tout entier, ceci n'est pas égoïste. Alors les gens se dirent les uns aux autres, « Comment allons-nous faire pour nous aimer ?» Et le sage leur répondit, « Contactez la sagesse et et reconnaissez à l'intérieur de vous le divin. Si vous arrivez à reconnaître le divin dans votre propre cœur, alors vous saurez ce qu'est l'amour. Vous saurez ce qu'est l'amour liberté, l'amour sagesse, l'amour prudence, l'amour confiance, l'amour inconditionnel. Alors, les gens entre eux décidèrent qu'ils allaient se supporter réciproquement. Et ce soir-là, le jeune homme qui avait apporté le pain monta au sommet de la montagne. Il ferma les yeux. Il contacta le divin au-dedans de lui. Et lorsqu'il ouvrit les yeux, il vit que de son cœur, une multitude de radiations était émise, et que ces radiations, comme des ondes de lumière, descendaient dans la plaine et sur la ville. Et alors il comprit qu'il n'avait plus besoin de quémander à l'extérieur de lui l'amour, qu'il n'avait qu'à se reconnaître pour être reconnu, qu'à s'aimer pour être aimé, qu'à savoir qu'il était le divin pour reconnaître le divin dans l'autre. Et nous dirons que ce sage qui était le vieil homme et que ce jeune homme qui était celui qui était dans l'expérimentation était exactement ce que vous êtes, car à certains jours, vous donnez pour recevoir. Vous donnez pour être vu, vous donnez pour être reconnu, et à d'autres jours, vous contactez votre sagesse et vous savez que tout est dans votre cœur. Alors prenez ces deux forces qui ont été trop longtemps divisées et unifiez-les à l'intérieur de vous, sachant que votre sagesse pourra recycler l'ancien et le faire devenir le nouveau. Et alors vous entendrez l'amour. Non seulement vous saurez qu'il est là, mais vous l'entendrez dans la vibration et vous sentirez que ces vibrations s'émanant de vous touchent vos frères et qu'en touchant vos frères, elles vous ramènent en même temps multiplier ces mêmes vibrations. L'amour donné est l'amour reçu. L'amour donné à soi-même et l'amour multiplié pour l'univers. Alors que l'amour soit avec vous, et c'est avec amour ce soir, et un amour sans condition, que nous venons répondre à vos questions.
Suite à ce commentaire, est-ce qu'il y aurait quelques questions parmi les gens ici? Il faudrait aller au micro pour qu'on entende bien la question sur l'enregistrement.
D'amour prudence? Certainement. Nous vous dirons que l'amour contient toutes les vibrations. L'amour contient la prudence, elle contient la sagesse, elle contient la vérité, elle contient la liberté et le rire. L'amour, c'est tout. L'amour, c'est le cœur du Père. Mais le Père, lui, nous vous dirons, sait qu'il est un. Il sait qu'il est un avec toute la création. Mais il sait également que dans sa création, il y a des multitudes d'êtres différents. Il y a des multitudes de vibrations différentes, de couleurs et de sons qui sont différents. Et nous vous dirons, chacune des vibrations, qu'elle soit la paix ou la joie ou la vérité ou la prudence, ainsi que vous le demandez, sont des vibrations de couleurs différentes. Lorsque nous parlons de la prudence, nous ne parlons pas d'une prudence qui soit la méfiance, mais d'une prudence qui sache bien regarder à l'intérieur de soi pour reconnaître le motif véritable qui fait poser l'action. Parce que parfois, vous vous leurrez vous-même sur ce qu'est l'amour donné et ce qu'est l'amour reçu, si vous ne faites pas attention à, nous dirons, la motivation qui est derrière le geste que vous posez. Et si vous regardez, par exemple, lorsque vous étiez enfant et que vous vouliez avoir une permission spéciale et que vous alliez faire une caresse à votre mère ou votre père, leur disant qu'ils étaient bien gentils, mais ayant derrière votre pensée que si vous étiez gentil vous-même, vous obtiendrez cette permission. Alors, cette prudence, qu'elle soit tournée vers vous, qu'elle soit tournée vers le motif qui vous propulse ou vous fait poser un geste. Est-ce que ceci répond à votre question?
Oui.
C'est bien. Que la prudence soit avec vous, chère dame. Et vous voyez, en posant cette question, il y avait aussi une forme de prudence un peu déviée. Nous vous dirons non point dans le sens d'un jugement, mais déviée dans le sens que peut-être pensiez-vous que la prudence, vous deviez l'avoir face aux autres. Et dans cette forme de prudence, il y a caché derrière une méfiance. Vous le saviez, le directeur, vous avez dit au début de cette séance que vous saviez tout. Mais vous avez allongé votre tentacule à travers le canal pour aller recontacter cette vérité avec vous-même. Bienvenue, nous vous aimons.
Je prends quand même un temps, si vous le... Je désire prendre ce temps-là. Par rapport à ce que vous venez de mentionner, parce que je pense que c'est tellement une image qu'on peut tous intégrer très facilement, d'allonger notre tentacule, merci Bernadette, d'allonger nos tentacules pour aller puiser à l'intérieur du canal pour se montrer une partie, une facette de soi-même. C'est merveilleux ça.
Merci pour votre insistance, directeur.
Bienvenue. Il y a une question qui a été écrite ici qui est: comment arriver à avoir de la compassion et de l'amour pour soi-même et ensuite en envoyer aux autres?
Nous vous dirons, pour avoir de la compassion et de l'amour pour vous-même, il faut que vous soyez absolument en dehors de tout jugement sur vous-même. C'est le jugement qui vous crée un mur et une barrière, nous dirons, face à la compassion. Parce que si vous vous jugez, vous ne pouvez pas vous aimer. Même si vous jugez votre taille, ou la couleur de vos yeux, ou le regard des autres posé sur vous, même si vous jugez un geste maladroit que vous venez de poser, nous vous dirons, déjà vous êtes dans le jugement. Déjà vous... ériger ce mur pour empêcher le courant de la compassion de passer. Nous répétons ce que nous avons dit dans le commentaire d'ouverture. Pour arriver à vous aimer vous-même, vous devez reconnaître en vous le divin. Est-ce que vous doutez que Dieu soit amour? Est-ce que vous doutez que le Père soit amour? Que le Fils, que l'Esprit soit amour? Nous savons bien que non. Eh bien, le Père, le Fils et l'Esprit, c'est vous. Vous êtes le microcosme, ils sont le macrocosme. Mais vous êtes le miroir de ce qu'ils sont. Et lorsque Christ Jésus disait « Soyez parfaits comme votre Père est parfait », il disait « Reconnaissez à l'intérieur de vous la totalité du divin ». Alors, si vous reconnaissez que vos pieds sont divins, que vos gestes sont divins, que votre parole est divine, que votre regard est divin, parce qu'il vous conduit inévitablement à la source d'où vous venez, alors vous ne jugerez pas ni celui qui tue, ni celui qui attire la violence, ni celui qui est nous dirons selon votre jugement ou selon votre perception quelqu'un qui devrait être éliminé de l'univers. Nous vous dirons, lorsque vous aurez compris que l'autre qui est à l'extérieur de vous, c'est vous, alors vous commencerez à comprendre ce qu'est l'amour. Mais dès que vous portez un jugement sur l'autre, c'est un jugement sur vous-même que vous portez. Alors, soyez très attentifs à cette notion du jugement. C'est elle qui empêche l'amour. Mais tout le reste, nous vous dirons, et même les jugements que vous avez posés, ne les jugez pas. Reconnaissez-les dans l'expérience et sachez qu'en les reconnaissant dans votre sagesse, vous pouvez arriver à les recycler, à les éliminer et à les remplacer par d'autres formes vibratoires. Et vous aimer tel que vous êtes, c'est vous aimer dans ce que vous ne voudriez pas que les autres voient de vous. Ça, c'est gênant, n'est-ce pas? Alors, vous aimer jusque-là, ça, c'est vous aimer. Revenez au commentaire d'ouverture. Ce jeune homme n'était plus confortable lorsqu'il a vu que le vieux sage avait bien vu qu'il avait triché. Mais lorsqu'il est venu devant toute la ville, il a monté sur le podium et il a dit dans la vérité, sans se juger lui-même, mais dans la vérité, il a raconté son expérience. Et c'est ceci qui lui a valu l'amour du peuple de toutes ses cellules.
Est-ce que l'amour inconditionnel peut se pratiquer en tant que couple?
C'est plus difficile. Nous expliquerons pourquoi. Parce que souvent, les couples sont des rencontres karmiques. Nous vous dirons, il y a peu de couples qui vivent ensemble et qui ont dépassé la marge de tous les karmas. Il faut avoir dépassé autant d'un côté que de l'autre. Nous dirons, et d'avoir éliminé dans l'énergie tous les aspects karmiques, et non seulement dans l'énergie, même dans la pensée et la conception du futur. Si le couple peut arriver à ce sommet, et nous vous dirons que ce sommet est là pour un petit nombre dans le moment sur le plan terrestre, ce sera pour un plus grand nombre plus tard, lorsque vous aurez véritablement compris ce qu'est un couple. Mais dans la compréhension que vous en avez immédiatement, nous vous dirons, l'amour inconditionnel est plus difficile. Nous ne disons pas qu'elle est impossible, nous disons que vous avez là un exercice des plus merveilleux parce que vous ne le faites pas dans la facilité. Aimer quelqu'un qui habite dans un autre pays que vous n'avez jamais vu et à qui vous envoyez, par exemple, une somme d'argent pour lui sauver la vie. Ça, c'est facile, parce qu'il ne vous enverra pas de reflet karmique. Nous ne disons pas que vous ne devez pas poser ces gestes. Bien au contraire, vous pouvez les poser. Mais nous vous dirons que le retour karmique reviendra plus rapidement si c'est le conjoint ou le patron ou l'étudiant dans la classe qui vous tape sur les nerfs. Et alors, nous vous dirons, à ce moment-là, vous serez confronté avec la forme d'amour qui vous habite. Vous verrez si, dans l'amour que vous posez sur la personne qui vous juge ou qui vous confronte, vous verrez si vous avez un amour détaché, libre, si vous êtes capable d'aimer, même si vous ne sentez pas l'amour, si vous êtes capable d'aimer, même si vous sentez la haine. Aimez vos ennemis, disait Jésus, car aimer ses amis, ça c'est très facile et tous peuvent le faire. Alors nous vous dirons que le couple, quoi qu'il soit très souvent karmique, peut être un lieu d'apprentissage. Nous ne disons pas un lieu de constant amour inconditionnel, mais un grand lieu d'apprentissage.
Oui, madame, la prochaine question.
Oui, puisque le couple, on dit que c'est des rencontres karmiques, quand c'est à répétition, est-ce que c'est toujours karmique ou après un veuvage ou une séparation ou un divorce?
Nous allons vous expliquer que très souvent, les êtres humains, et nous parlerons pour votre peuple davantage, le peuple de votre pays de Québec, mais de pays de Canada et d'Amérique, nous vous dirons qui sont des peuples, vous pouvez mettre aussi certains peuples européens, qui sont davantage évolués au niveau de la conscience. Nous vous dirons que dans ces peuples, vous avez dans les couples des comportements un peu semblables. Lorsque vous venez sur le plan terrestre, vous avez écrit avant de descendre une forme de scénario que vous alliez venir jouer. Et vous avez pris cette décision de jouer ce scénario pour être capable de créer une libération, et souvent et de plus en plus, libération d'aspect karmique. Mais pour être capable de jouer ce scénario, vous avez besoin soit d'un miroir semblable ou soit d'un miroir opposé. Alors vous créez dans un couple l'opposition, soit un conjoint qui vous ressemble absolument et contre lequel vous vous heurtez, ou soit un conjoint qui soit l'inverse de vous. Par exemple, si vous êtes venu pour régler l'aspect victime à l'intérieur de vous, vous aurez choisi par amour pour vous-même un conjoint qui sera peut-être soit un sauveur ou quelqu'un qui est un attaquant, pour vous faire aller jusqu'au bout de votre comportement de victime. Mais lorsque vous aurez décodé quel est ce comportement de base qui vous appartient, lorsque vous aurez décodé ce blueprint, nous vous dirons alors vous n'aurez plus les mêmes formes de relations. Mais si vous n'avez pas décodé ceci, vous allez quitter un conjoint, puis vous allez aller en chercher un autre et vous allez répéter le même type de comportement. Vous allez quitter un alcoolique, vous allez trouver un alcoolique du travail, ou un alcoolique des voitures, ou un alcoolique de la... comment appelez-vous tous ces jeux que vous allez dans les casinos? Alors, nous vous dirons, il y a toutes sortes de formes d'alcoolisme. Et si vous avez choisi un conjoint d'alcoolique, c'est parce que vous étiez une épouse d'alcoolique. Alors, c'est cela qu'il faut que vous regardiez. Quel est le comportement, nous dirons, que vous êtes venu régler? Et pour régler un comportement de base, très souvent, vous allez choisir quelqu'un avec qui vous avez des aspects karmiques importants à régler et qui joue le rôle opposé de vous dans la scène. Alors, vous aurez le miroir qui, à un moment donné, soit va craquer complètement pour vous retourner à vous-même, ou que vous allez répéter le cycle encore et encore, comme pour plusieurs, vous le faites depuis plusieurs mille années. Est-ce que ceci répond à votre question, chère dame? Est-ce que vous comprenez que le couple existera uniquement lorsque chaque être fera un couple avec lui-même?
L'androgyna.
Au-delà. Au-delà de l'énergie androgyne. Nous parlerons de ceci dans, nous dirons, une conférence que nous donnerons sur le couple, mais nous pouvons un peu élargir ce soir en vous disant qu'il y a eu plusieurs paliers dans la relation humaine jusqu'à ce que l'être trouve au sommet, nous dirons, de ce palier, qui il est dans la totalité du divin. Mais il ne peut pas sauter les étapes. Il doit les franchir une à une. Et plus sa conscience est grande, plus il va franchir les étapes rapidement. Nous vous dirons que l'étape de l'androgynie est une étape. Elle suppose encore, nous dirons, une certaine perception du féminin et du masculin. Mais lorsque vous aurez dépassé l'énergie androgyne, vous irez dans une énergie de fusion et cette énergie de fusion, elle se fera avec votre propre énergie. Et lorsqu'elle sera faite avec votre propre énergie, elle pourra se faire avec tous vos semblables.
Merci.
Bienvenue.
La prochaine question. En voulant aider un ami, je me suis retrouvé dans une situation financière quasi catastrophique.
Tant mieux.
Alors, est-ce que l'amour inconditionnel d'un ange gardien et guide protecteur me sauvera de cette situation pénible?
Non, point. C'est vous qui allez vous en sauver, parce que c'est vous qui vous êtes mis les pieds dans le pétrin. Et vous avez mis les pieds dans le pétrin parce que vous êtes sage. Parce que quelque part, derrière ce sauveur que vous êtes, il y a un appel à l'amour inconditionnel de vous-même. Tout à l'heure, nous avons parlé de la prudence. Nous avons dit que la prudence devait être par rapport à votre intention profonde. Est-ce que votre intention profonde n'était pas de sauver cette personne? Alors, si vous voulez sauver les autres, c'est que vous trouvez que les autres sont bien pitoyables et n'ont pas suffisamment d'énergie ou de force ou de puissance pour se sauver eux-mêmes. Là, vous êtes dans le rôle de sauveur. Et fort probablement que ceci fait partie, nous dirons, de votre comportement de base. Et nous vous dirons que derrière le sauveur, il y a aussi une victime. Vous sauvez quelqu'un, la personne semble être très heureuse d'être sauvée, mais ce n'est pas assez, parce qu'elle doit sortir de ce comportement de victime. Alors, pour en sortir, elle doit vous accuser. Et vous accusant, vous devenez victime. Et ça, c'est le cycle, nous dirons, qui contient toute la roue karmique. Alors, ce ne sont pas les anges qui vont vous sauver et vous sortir du pétrin. C'est vous-même, parce que vous possédez à l'intérieur de vous tout l'amour pour vous en sortir. Ce qu'ils feront, les anges et les guides, c'est qu'ils vous accompagneront. Si vous leur demandez de l'aide, ils vous aideront à voir plus clair. Nous dirons, ils prendront les phares et ils les mettront sur votre moi supérieur pour que vous en ayez une conscience plus directe. Mais ils ne feront jamais les choses pour vous. Alors, à cette personne qui a posé la question, nous vous félicitons pour votre sagesse d'avoir suffisamment sauvé quelqu'un pour comprendre que vous n'avez pas à jouer le sauvetage et que ceci n'est pas de l'amour. L'amour, nous vous dirons, ce n'est pas de sauver l'autre, c'est de reconnaître en lui le divin, donc la capacité qu'il a lui-même de se sauver. Ça, c'est difficile, n'est-ce pas? Et c'est difficile parce que vous avez été cherché par le biais, la reconnaissance. Vous avez été cherché par le biais que les gens puissent dire « Mon Dieu, que cette personne est bonne. Vois-tu comme elle est généreuse ?» Mais nous vous dirons tout ceci, c'est de la nourriture, pas pour le chat, mais pour l'ego.
Alors, la prochaine question. Pourquoi les êtres de lumière et les maîtres ascensionnés nous aiment-ils inconditionnellement? Et pourquoi veulent-ils toujours nous aider? Serait-ce parce que nous sommes sur un même vaisseau ou qu'ils risquent de chavirer par tout le monde si les peuples de l'univers ne s'aiment pas tous sans exception?
Ils n'ont pas peur de chavirer et s'ils chavirent, ils s'en sortiront indemnes. D'abord, nous vous dirons que les êtres de lumière, les maîtres ascensionnés, les anges, les archanges, tous ceux que vous appelez à votre aide et qui, nous vous dirons, par un grand amour émettent des vibrations qui vous font reconnaître à l'intérieur de vous le divin, ne le font pas uniquement par une générosité extérieure, mais ils le font aussi par leur propre évolution. Ce qu'ils ont compris dans leur grande sagesse, c'est que dans la mesure où ils s'aimaient eux-mêmes dans la réalisation et nous dirons dans la manifestation de leur pouvoir d'amour, de leur pouvoir de lumière, de leur pouvoir créateur, en faisant ceci, ils s'aimaient eux-mêmes et ils entraînaient derrière eux et étaient entraînés devant eux. Car tout est interrelié. L'enfant qui aime le chat fait évoluer son père et sa mère. Le père et la mère qui aiment l'enfant font évoluer l'enfant et le chat. Tout est interrelié. Lorsque vous aimez une fleur pour sa beauté, tout simplement, et que vous la laissez être ce qu'elle est, vous émanez des radiations, et ces radiations ne sont jamais perdues et s'en vont partout dans l'univers. Les maîtres ascensionnés qui ont beaucoup travaillé à reconnaître en eux le divin peuvent désormais aimer inconditionnellement, c'est-à-dire sans attendre d'être reconnus, d'être appréciés, d'être applaudis, et ils le font même dans l'invisible, de sorte que vous ne savez pas si c'est Jésus ou le comte de Saint-Germain ou François d'Assise ou Michael ou qui est là en train de vous aider. Et c'est bien qu'il reste le plus longtemps possible dans l'invisible. Ceci fortifie votre foi. À cette personne qui a posé la question, nous vous dirons, changez un peu votre forme pensée. Faites-lui faire encore un demi-tour vers la droite. En changeant votre pensée, au lieu de croire que dans l'univers, il y a beaucoup de gens qui ne s'aiment pas, qui sont mauvais, voyez plutôt l'expérimentation que tous ces gens vivent parce qu'à l'intérieur d'eux, il n'y a qu'un seul appel et que cet appel, c'est l'appel de l'amour. Peut-être manifeste-t-il ceci dans la matière de façon très gauche, mais nous vous dirons, derrière ces gaucheries, l'amour est là. Parfois, elle dort très dur. Parfois, elle sommeille à peine. Parfois, elle est éveillée. Et parfois, elle danse là, au milieu de la pièce, comme ce soir. Alors nous vous dirons, n'ayez pas peur que le vaisseau coule. N'ayez pas peur qu'il renverse, sans quoi vos créations de peur pourront faire pencher le bateau. Alors, redressez votre pensée et dites-vous, je suis amour, tout est amour. Et alors, tous vos frères qui sont vous, toute cette humanité qui est vous, tous ces êtres de lumière qui sont vous, tous ces maîtres ascensionnés qui sont vous, diront en même temps que vous, se manifestant à travers votre propre verbe, votre propre parole, ils se diront, je suis amour. Un tout petit geste très simple peut avoir plus d'importance et d'influence dans la manifestation du plan terrestre qu'une grande guerre comme la dernière grande guerre mondiale.
La prochaine question, là-bas.
Oui, bonsoir. On a parlé de l'amour cosmique. Maintenant, moi, on m'a dit par un médium que je rencontrais un amour non cosmique, non karmique, excusez-moi. Et puis, on m'avait dit que ce serait un amour cosmique, mais moi, je comprends pas qu'est-ce que ça veut dire parce que c'est trop grand. Alors, je ne sais pas si tu pourrais m'aider à savoir c'est quoi un amour non karmique.
Nous vous dirons que l'amour non karmique existe lorsque vous êtes sorti individuellement de la roue du karma. Et vous sortez de l'amour de la roue du karma lorsque vous revenez totalement à vous-même, lorsque vous comprenez que le seul lieu où vous pouvez contacter le divin et l'amour véritable, c'est à l'intérieur de vous. Alors nous vous dirons à ce moment-là, il se pourra que vous ayez l'illusion, nous disons bien l'illusion, que quelqu'un viendra de vous ne savez quel espace sidéral au-devant de vous, comme s'il était un conjoint, et que là vous allez vivre une lune de miel, nous dirons, qui sera cosmique. Dans ceci, nous vous dirons d'être très prudent et de ne pas vous créer d'illusions. Il est plus facile de croire à quelqu'un qui descendra de plans de lumière que vous ne connaissez pas et qui viendra dérouler devant vous le tapis rouge et vous offrir les lys blancs que de revenir et travailler sur vous-même. Car nous vous dirons, si vous comprenez véritablement ce qui est en train de se passer chez ceux qui ont plusieurs de l'amour, vous comprendrez que ces épousailles dont il est question et que vous pouvez appeler des épousailles mystiques, ces épousailles se feront entre l'être lui-même et le Christ qui l'habite. C'est ça la noce des noces, et nous vous dirons, tous les amours vécus sur le plan terrestre n'ont qu'un seul objectif, et c'est celui de vous amener dans cette énergie. Alors, n'attendez pas le facteur, n'attendez pas non plus le fleuriste, retournez à l'intérieur de vous-même et cherchez à l'intérieur de vous cette grande source d'amour. Elle est là et nulle part ailleurs. C'est là le cosmos.
Par ricochet à cette question, est-ce que vous pouvez parler de quelle sorte de vibration que ça émane les noms cosmiques?
Nous vous dirons, il y a des gens, il y a des médiums par exemple, qui travaillent à donner à des personnes des vibrations cosmiques. En faisant ceci, c'est qu'ils lisent à l'intérieur de l'aura des vibrations plus particulières appartenant à l'aura. Disons par exemple que quelqu'un s'appelle Marguerite et que ce jour-là, elle va devant un médium qui est très éveillé et qui peut lire parfaitement les vibrations. Peut-être que le médium ne recevra pas la vibration de Marguerite, mais la vibration de rose. Alors, il pourra dire à cette Marguerite qu'elle est une rose. Mais lorsque la Marguerite comprendra qu'elle est à la fois l'arbre et la rose et la fleur et la rivière et la montagne, elle n'aura pas besoin de cet artifice. Elle pourra dire tout simplement « Je suis amour ». Et votre nom véritable, c'est le nom de Dieu. Votre nom véritable, c'est l'amour. Votre nom véritable, c'est le je suis. Et nous vous dirons, si ceci vous permet, lorsque vous recevez un tel nom cosmique, de vous centrer pendant la méditation sur une vibration qui veut s'accélérer à l'intérieur de votre énergie, faites-le, mais ne portez pas ce nom pour nourrir votre ego. Et dire, moi, j'ai atteint des plans supérieurs parce que je porte maintenant un nom cosmique. Vous faites tous partie du cosmos. Cosmos, il est au-dedans de vous. Et lorsque vous aurez atteint ce degré d'amour supérieur dont nous parlions précédemment, vous aurez atteint l'énergie de co-création.
Vous avez parlé tantôt de contacter le divin en soi et une question qui est de comment le contacter, ce divin en soi.
D'abord, savoir qu'il est là, le reconnaître et savoir que cette connaissance n'est pas une connaissance mentale ni une connaissance émotionnelle. Elle est souvent une connaissance qui se révèle dans le silence du cœur. Car il y a beaucoup parmi vous qui ont peur du silence, mais quand vous comprendrez que l'univers ne tolère pas le silence, pas plus qu'elle ne tolère le vide, vous comprendrez que ce qui vous apparaissait, le silence, était la vibration parfaite de l'amour, ou la vibration parfaite de l'énergie du Père et de l'énergie de l'Esprit. Nous vous dirons, vous pouvez, dans la matière, prendre le temps chaque jour d'ouvrir votre canal. Vous pouvez même le visualiser, puisque vos sens vous aident à aller vers le non-sens. Alors visualisez que vous ouvrez le canal et que vous voyez une grande lumière divine venant de la source et s'écoulant à l'intérieur de vous comme un torrent sacré, comme un torrent divin qui n'a qu'une seule fonction, celle de laver, nous dirons, tout ce qui a été encodé comme étant mal, alors que le mal n'existe pas. C'est comme si l'amour venant du cœur du Père doit corriger toutes les pensées que les humains ont eues qui ont créé le mal ou l'existence du mal. Alors, laissez-vous envahir par cette vibration et sachez que viendra un moment donné où vous la sentirez véritablement dans votre cœur. Vous sentirez que vous êtes habité par le dedans. Vous sentirez que vous n'êtes plus jamais seul. Vous sentirez que la joie s'installe à l'intérieur de vous et que vous ne voyez plus vos frères du même œil. Alors là, vous pourrez commencer à comprendre que vous contactez le divin. Mais ce contact, nous le répétons, il ne se fait pas par le mental. Il ne se fait pas par l'émotion, il se fait par le silence.
La prochaine question, c'est comment se fait-il qu'un compagnon nous manque tellement quand on vit seul? Et il y a un ajout à cette question, pourquoi le sexe?
Ça pourrait servir de tout un thème. Mm-hmm. Nous demandons, directeur, que vous reteniez cette suggestion. Et nous pourrons un soir jouer sur ce palier toute la soirée. Nous croyons que l'assemblée sera nombreuse parce que nous savons que les êtres humains ont une obsession à ce niveau. Et leur obsession, ce n'est pas quelque chose qui est mauvais, c'est de comprendre pourquoi cette réalité existe. S'ils doivent, pour devenir des êtres spirituels, sacrifier cet exercice, s'ils y demeurent, s'ils s'éloignent de leur propre source, et nous vous dirons, nous serions heureux, dans un temps plus long, de pouvoir répondre à toute cette question fondamentale. Nous répondons, chère dame ou cher monsieur qui avait posé cette question, que si vous manquez lorsque quelqu'un vous a quitté et que vous vous retrouvez seul, c'est que vous ne savez pas encore que vous êtes la totalité. Alors, cette épreuve que vous vivez est là précisément pour vous forcer à retourner à vous-même et à comprendre l'illusion qui existe dans ce mot que vous avez appelé solitude. La solitude n'existe pas pour l'être qui s'est trouvé, car celui qui s'est trouvé sait qu'il est chacun de ses frères. Alors que la solitude est un mensonge, qu'elle n'existe pas. Mais pour être capable d'avoir cette forme pensée, nous vous dirons, vous devez avoir traversé certains paliers vibratoires. Vous devez avoir accepté de vous libérer d'aspects karmiques, de sortir de votre énergie toutes ces émotions qui vous ont emprisonné et qui étaient la peur, la jalousie, la méfiance, le doute. Et lorsque vous aurez complètement fait le ménage à l'intérieur de ceci, vous ne douterez plus de vous-même, alors vous ne serez plus jamais seul. C'est que vous croyez encore que quelqu'un de l'extérieur va venir remplir votre vide. Et ceci vous le croyez depuis des millénaires. Nous dirons que vous le croyez depuis Adam et Ève, mais se pointe à l'horizon l'Adam nouveau et l'Ève nouvelle. Nous vous en reparlerons plus tard.
Est-ce que l'amour dispensé à nos enfants se rapproche bien de l'amour inconditionnel, et pourquoi?
Elle se rapproche parce que elle n'a pas de retour. Elle se rapproche de l'amour inconditionnel lorsque vous n'élevez pas vos enfants pour vous-même, pour qu'ils soient les jolis trophées que vous voudriez bien qu'ils soient, pour qu'ils soient les universitaires ou les gens bien placés ou dans le mariage ou bien casés, comme vous dites parfois. Alors, si vous regardez vos enfants avec détachement, que vous les regardez avancer dans leur propre chemin, leur propre voix, leurs propres pensées, qui peuvent être tout à fait différents de votre pensée, de votre voix, de votre perception, de votre croyance, et que vous respectez ceci, nous vous dirons, là, vous êtes dans l'amour inconditionnel. Mais quand vous voulez faire les enfants semblables à votre image, alors vous nourrissez votre ego. Et nous vous dirons que beaucoup de parents ont eu des enfants, soit pour être mères, parce que toutes les femmes doivent être mères, soit pour être des pères bien reconnus, appréciés de l'épouse, appréciés des enfants, reconnus par la famille. Vous souvenez-vous, il y a 50 ans, pour ceux qui peuvent, pourtant, parmi eux et parmi elles, il y avait de grands sages qui venaient déjà vous enseigner le retour à vous-même. Car nous vous dirons, le passage de la lumière définitive ne se fera pas deux par deux, il se fera seul. Et une fois accompli, nous vous dirons que là, vous contacterez la multitude et vous ne saurez plus ce qu'est la solitude. Vous devrez demander à quelqu'un d'écrire ce mot pour le réapprendre, car vous n'en aurez même plus la souvenance.
Pourriez-vous offrir un peu de lumière liquide?
Inconditionnellement?
Absolument.
C'est parfait.
Elle contient également l'amour de Bernadette. Inconditionnellement.
Cette eau est glaciale. Merci beaucoup.
Bienvenue. La prochaine question?
Oui, vous avez parlé tout à l'heure du jugement comme principal obstacle à l'amour inconditionnel. J'aimerais savoir s'il y en a d'autres et quels sont-ils, aussi bien pour recevoir que pour donner l'amour inconditionnel.
Nous vous dirons que les deux plus grands obstacles sont le jugement et l'égoïsme. Parce que l'égoïsme est tourné vers soi, mais tourné vers soi de façon fausse. Nous vous dirons, l'autre jour, le directeur employait une expression que nous avons trouvée très amusante et que nous reprenons ce soir. Il parlait du faux cœur. Alors, il y a le cœur véritable et il y a le faux cœur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui semblent bien retourner à eux-mêmes, mais qui sont, nous dirons, tournants dans leur petit nœud égoïque, voulant tout attirer à eux-mêmes et ne voulant point rien partager avec l'univers. Alors, nous vous dirons que l'égoïsme est un des plus grands obstacles. Le doute est également un obstacle à l'amour inconditionnel, car que vous doutiez de vous-même ou que vous doutiez des autres, c'est que là, vous empêchez véritablement le courant d'énergie de passer. Car l'amour, c'est une énergie. C'est l'énergie qui existe et qui est la plus pure, et c'est la lumière qui vient ensuite. Et la lumière, nous vous dirons que c'est le véhicule de l'amour. Alors, faites la lumière à l'intérieur de vous. Et si vous faites la lumière, vous verrez que chaque fois que vous doutez de quelqu'un d'autre, réellement, dans
les profondeurs de votre être, c'est d'une de vos cellules que vous doutez. Et dès que vous doutez d'une de vos cellules, nous vous dirons, vous êtes quelque part en dehors de l'amour. Il se peut bien qu'un certain pourcentage de vous soit dans l'amour inconditionnel, mais quand vous serez dans la totalité de cet amour inconditionnel, et nous remercions ce policier de venir confirmer, nous vous dirons, à ce moment-là, vous serez tellement lumière que vous n'habiterez plus ce plan.
Oui, prochaine question.
Je suis marié avec une femme de culture différente. Devrais-je adhérer à sa religion? Je crois que non.
Nous croyons que vous devez adhérer à votre propre religion. Chacun a le droit à sa religion. Chacun a le droit à sa pensée au niveau politique, à sa pensée au niveau éducationnel, à sa pensée au niveau, nous dirons, de la création, qu'elle soit industrielle, qu'elle soit, nous dirons, de création pure. Chacun a sa propre voie. Alors, si vous devez adhérer à la religion d'une autre personne pour plaire à cette personne, c'est que quelque part, l'amour n'existe pas entre vous, parce que l'amour est respect total de la pensée, du désir et du choix de l'autre. Est-ce que ceci vous éclaire? Nous vous dirons de plus, cher monsieur, que la religion est un passage. Religion veut dire véritablement le mot relié. Et le but des religions au départ, et les religions ont eu leur raison d'être et ont encore pour certaines personnes leur raison d'être, puisque cette raison était de relier les gens entre eux, de créer une forme de communauté, de créer une forme de communion énergétique. Mais nous vous dirons que dans le transfert des messages au niveau des religions, nous dirons, les ondes se sont brouillées et très souvent, les gens ne se sont pas retrouvés dans une communauté. Et nous vous donnons un tout petit exemple très amusant. Entrez dans une église, que voyez-vous? Si vous êtes dans le troisième banc et que les bancs sont pleins devant vous, vous voyez le dos des têtes des personnes qui sont devant vous. Si vous êtes dans le centième banc, vous voyez le dos des têtes de 100 personnes qui sont devant vous. Parce que les religions n'ont pas encore appris à relier, parce qu'elles sont, elles aussi, une vibration dans un mouvement évolutionnaire. Et elles ont évolué, les religions ont été, nous dirons, transmises par des êtres humains. Elles ne sont pas, nous dirons, des formes de globules qui tombent comme ceci du cosmos ou comme des gouttes de pluie que vous attrapez au vol. Nous vous dirons, les religions, ce sont des créations. Ce sont des créations des êtres humains. Et l'être humain a créé ceci comme une voie et comme un passage. Et ceci est bien tant que vous avez besoin de ce passage. Mais chacun peut prendre son propre couloir pour se rendre à la source.
Oui, madame, la prochaine question.
On a parlé de la nécessité de reconnaître en nous-mêmes des attitudes ou des sentiments, mais par contre, de ne pas porter de jugement. Mais j'ai du mal à faire la différence entre comment on peut seulement reconnaître quelque chose chez nous-mêmes ou chez quelqu'un d'autre, et puis là où s'arrête reconnaître et commence le jugement.
Nous vous dirons, reconnaître, c'est toujours dans la vérité. Revenez au commentaire d'ouverture et regardez ce jeune homme. Il se sent piégé parce que l'homme sage lui reflète. Et vous savez, l'homme sage n'est pas venu attirer uniquement par l'odeur du pain. Il est venu attirer par la sagesse de ce jeune homme qui voulait sortir d'un piège. Alors la sagesse s'est présentée pour lui refléter sa propre sagesse. Ce que le jeune homme a fait dans un premier temps, c'est qu'il a reconnu qu'il avait pris le bien de l'autre et qu'il n'avait pas à faire ceci pour aller chercher l'amour. Et c'est souvent ce que vous faites si vous observez vos comportements. Vous donnez pour vous recevoir ou vous recevez pour donner en oubliant ce que vous avez reçu. Alors, ce qu'a fait ce jeune homme, lorsqu'il a compris, venant de la bouche du sage, qu'il ne devait pas se juger, mais qu'il devait comprendre qu'il était dans l'expérimentation, alors il a fait la vérité devant tout le peuple de ses cellules. Et il a dit à ses cellules, « Aujourd'hui, j'ai appris une grande leçon de sagesse. J'ai compris que l'amour que j'ai à donner, je dois le cultiver dans mon propre cœur. » Mais s'il n'avait pas commis cette erreur, il n'aurait pas attiré le vieux sage. Et s'il n'avait pas attiré le vieux sage, il ne serait pas allé dans cette vérité. Et s'il n'avait pas été dans cette vérité, il n'aurait pas contacté, nous dirons, tout l'amour de ses cellules qui attendaient ce geste. Comprenez-vous? Alors, ce que vous devez faire, lorsque vous reconnaissez que vous avez un comportement qui est répétitif, nous donnons un exemple plus précis. Imaginez que vous êtes une victime, que vous êtes la victime depuis le départ de votre vie. Vous êtes venu au monde par une césarienne, votre mère a été malade, vous avez été gardé dans l'incubateur, gardé auprès de votre père qui avait trop de travail, qui vous a placé chez la grand-mère, vous avez été ensuite à l'école et vous avez eu une épidémie, vous avez attrapé une maladie, vous avez raté les premières années de classe, et ainsi de suite. Vous écrivez le journal de la victime que vous êtes. Vous pouvez juger cette victime et vous pouvez dire « Ce que je comprends de ma sagesse, c'est qu'elle exagère pour moi la notion de victime pour que je sois tellement sursaturée de cette énergie que je ne veuille plus habiter avec elle. » Alors, lorsque vous vous reconnaîtrez dans l'état de victime, vous direz « Ah, je te reconnais, toi. » Puis, vous prendrez cette victime, vous l'amènerez dans le cœur et vous direz, « Je te recycle dans l'amour. Tu es venu me dire la vérité sur moi-même et je sors immédiatement de ce comportement de victime. » Bref, aurez-vous à répéter ceci, nous dirons, un nombre incalculable de fois, mais à chaque fois, vous aurez usé le noyau et viendra un moment donné où vous comprendrez que cette énergie ne vous habite plus et que vous entrez dans l'énergie de service pur. Est-ce que c'est un peu plus clair?
Un peu, mais ça va demander de la réflexion.
C'est bien. Il y a d'autres questions,
oui.
Directeur?
Prochaine question. Dans un an, je vais enseigner la philosophie spirituelle. J'aimerais y incorporer aussi vos enseignements, y compris vos exercices de méditation, dont j'aimerais avoir l'autorisation et votre participation pour que nous puissions marcher vers notre libération, vers la lumière. Je vous aime, Georges.
Alors, Georges, vous demandez publiquement des droits d'auteur. Nous vous accueillons dans ceci. Et nous vous dirons, allez vous asseoir avec le directeur, la forme Louise, discutez-en. Et nous vous dirons, ces cercles, ils vont aller en s'augmentant. Alors, Georges, ayez de l'espoir.
Il y a un ajout.
Et nous vous dirons, vous êtes déjà un grand philosophe, Georges. Et nous vous dirons, cette vibration que vous allez émettre va toucher des êtres qui sont déjà sur le plan, qui sont très évolués, mais qui ignorent leur sagesse. Alors, vous allez semer la sagesse en semant cette forme. Nous vous accompagnerons. Nous sommes déjà avec vous, d'ailleurs.
Alors, je disais qu'il y a un ajout à cette question, ce qui est, les vitamines et les minéraux sont-ils une prévention contre le cancer?
Si vous y croyez, c'est votre foi qui vous guérit. Ce n'est pas la vitamine elle-même. Nous vous dirons bien sûr que la vitamine contient une vibration, mais vous pourriez ingurgiter des milliards de ces vibrations si vous ne croyez pas que vous avez le pouvoir de vous auto-guérir, vous allez éliminer toutes ces vitamines. Mais si vous croyez que vous avez le pouvoir et que vous pouvez allonger la tentacule de votre bras, prendre cette vitamine et lui dire, « Eh bien toi, petite vibration de lumière, peux-tu venir à l'intérieur de moi ? Et lorsque tu seras à l'intérieur de moi, je vais aussi me centrer sur moi-même. » pour que tu puisses utiliser ton action et me permettre de sortir de la vibration ancienne que j'ai créée. Car nous vous dirons que le cancer est le résultat d'émotions qui n'ont pas été exprimées, libérées et décodées dans la matière de vos corps.
Comment attirer l'abondance matérielle et financière?
En attirant l'abondance spirituelle. Si vous croyez dans le divin, vous n'aurez même pas besoin de penser à l'abondance financière, elle sera là. Mais si vous doutez de vous, si vous doutez des autres, si vous achetez tout ce que la société et la conscience vous dit, la conscience sociale, vous savez, la grande conscience sociale, elle entre souvent dans votre maison sur le petit écran. Un petit écran anodin qui vous dit que là, il n'y a pas d'emploi, que c'est très difficile, que les gouvernements ne viendront pas à bout de payer la dette, que vous aurez à payer la dette et que vous allez probablement déjà devoir plusieurs mille dollars avant de les avoir dans votre porte-monnaie. Et qu'en plus, il y a une crise économique et qu'il y a une grande baisse des biens. Et vous croyez tout ceci, vous ingurgitez ceci jour après jour, sans vous en rendre compte, parce que ces vibrations de votre télévision, elles viennent dans votre aura. Et nous vous dirons, si votre aura n'est pas d'une grande clarté et d'une grande pureté, tous ces petits doutes, et nous avons dit que le doute empêchait l'amour, tous ces petits doutes s'infiltrent à l'intérieur de vous, et vous dites, l'argent ce n'est pas pour moi. D'abord, l'argent, c'est sale. D'abord, l'argent, ça appartient surtout aux gros millionnaires qui trichent les autres, qui sont des voleurs, qui sont des menteurs, qui sont des exploiteurs. Ou elle appartient aux banques, qui sont aussi des formes d'exploiteurs et qui sont des escrocs. Elle appartient aussi aux voleurs qui vont voler les banques. Et alors, vous gardez tous ces égrégores de formes pensées. Et vous répétez ceci, mais si vous croyez que tout est expérimentation et que derrière ces expérimentations, il y a quelque part la volonté du Père que chacun connaisse l'amour, alors nous vous dirons, vous allez enlever tout jugement et en enlevant le grand nuage de jugement, vous allez recevoir l'abondance. L'abondance que nous vous souhaitons d'abord, c'est l'abondance du cœur, parce qu'avec elle, toutes les autres viennent.
Faisant suite à cette question, il y en a une autre qui dit « Pourquoi les matérialistes ont-ils de la difficulté à croire au monde céleste? »
Nous vous dirons « Ils ont de la difficulté à y croire » parce que s'ils allaient croire en ce monde céleste, ils seraient obligés de se détacher de la matière. Et c'est leur peur du vide et leur peur du détachement qui les cramponne dans la matière. Mais nous vous dirons que plusieurs personnes que vous appelez matérialistes, lorsqu'ils se retrouvent 5 minutes tout seuls avec eux-mêmes, sentent bien le grand vide qui est à l'intérieur d'eux. Et nous vous dirons de plus en plus les vibrations d'amour s'élèvent sur le plan terrestre, et vous en êtes tous des émetteurs, alors nous vous dirons, plus alors se produit une forme de purification Et il y a des gens que vous avez connus comme de grands matérialistes qui tout à coup se sont transformés. Et nous dirons, ont compris que la matière n'était pas là pour sa densité et uniquement pour être la matière, mais qu'elle était là aussi pour accueillir la lumière.
Oui, monsieur. Question.
J'ai l'impression que pour tendre vers l'amour inconditionnel, ça prend un grand lâcher-prise sur ce que nous sommes.
Exactement.
Et même si l'intellect est conscient de ça, pourquoi est-ce que c'est si difficile de lâcher prise pour finalement mieux adhérer à l'amour inconditionnel?
Nous vous dirons d'abord, il y a plusieurs raisons. C'est que dans un premier temps, vos consciences commence à s'ouvrir beaucoup plus largement que dans toutes les vies où vous avez vécu précédemment. Et ce degré de conscience commence à vous faire percevoir la pertinence absolue de contacter cet amour et cette source. Mais sachez bien que vous êtes créateur de cette réalité du futur, c'est-à-dire de cette cité de l'amour, de cette cité que nous pourrions appeler la Jérusalem céleste ou la cité christique. Vous serez les auteurs de ceci. Vous commencez déjà à le créer par votre désir d'amour, mais vous êtes encore tributaire de vos créations anciennes. Et vos créations anciennes, elles vous retiennent dans la matière. Toutes vos peurs anciennes, nous dirons tous vos doutes anciens, tous vos jugements anciens sont encore encodés dans vos cellules. Et c'est ce que nous appelons des racines qui sont dans la masse ou dans l'énergie de masse. Alors, bien sûr, c'est difficile. Même si quelque part vous avez cette conscience, nous vous dirons, pour vous élever, vous devez extraire toutes ces racines de la masse ou de cette énergie de masse. Et alors, c'est le travail que vous avez à faire. Le temps n'existe pas. Ce qui est important, c'est que votre conscience et votre volonté soit enlignée parfaitement sur ce port parfait qu'est l'amour.
Merci.
Et nous vous dirons, sachez que l'émotion vous rend cela bien difficile aussi.
Justement, suite à cette question et par rapport à l'émotion, il y a une question ici qui dit, lorsque l'on reconnaît une émotion, il s'agit de l'emmener au cœur pour la transmuter avec la lumière. C'est ce que je fais, mais je ressens toujours cette émotion comme des petits picotements dans les chakras de la base. Devons-nous, à ce moment-là, descendre la lumière jusqu'à ces chakras pour transmuter complètement? Merci, je vous aime.
Certainement, vous avez la réponse dans votre question. Nous ajouterons un tout petit détail. Donnez-vous 35 ans. C'est ce que vous voulez faire en un jour. Nous vous dirons parce que vous êtes limité par le temps et que vous avez l'impression que si vous ne vous dépêchez pas, vous allez manquer le bateau. Nous vous dirons, le bateau, il est toujours là, il est éternel, il est au-dedans de vous.
Après un divorce, la recherche du pardon, est-ce une forme d'amour pour soi?
Nous vous dirons, vous pouvez penser à pardonner. Mais souvent dans votre pensée, le pardon était d'essayer d'oublier le mal que l'autre vous avait fait, parce que vous avez vu ce que l'autre vous a fait comme étant du mal. Mais lorsque vous allez commencer à comprendre que rien n'est mal, mais que tout est expérimentation, alors vous n'aurez même plus besoin du pardon. Vous allez voir tout comme étant la grâce, comme étant la lumière, comme étant un moyen de vous permettre d'évoluer, d'avancer et de vous extraire à vos créations anciennes, qui étaient la création du mal. Lorsque nous parlions il y a quelques minutes d'Adam et de Ève, ce que vous avez appris dans vos textes sacrés, c'est qu'ils avaient mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils avaient cru que le mal existait. Alors, ils ont créé cette réalité. Mais là, vous savez que tout est votre création. Ce mariage que vous pouvez appeler, entre guillemets, raté, c'est votre création. Et vous l'avez créé par sagesse, pour apprendre sur vous-même, pour apprendre quel est votre comportement de base, pour apprendre comment vous recontacter, comment vous rechoisir, comment vous marier avec vous-même. Et nous vous souhaitons une bonne noce. Nous y assisterons d'ailleurs.
Avant la prochaine question, il y a une demande pour un exercice pour nous aider à rejoindre cet amour inconditionnel en chacun de nous. Vers la fin, ça, j'imagine, si c'est possible.
Certainement, mais la fin s'approche.
Alors, une dernière question ici.
Si dans l'amour inconditionnel, on doit aimer tous nos cellules, comment peut-on arriver à aimer complètement toutes les cellules qu'on sait qui sont malades?
Nous vous dirons, en croyant qu'elles ne sont pas malades, en leur disant qu'elles ne sont pas malades, en leur disant qu'elles ont épousé la maladie pour sortir de la maladie, en leur disant qu'elles ont joué le rôle de victime pour sortir de l'état de victime. Et nous vous dirons que vous allez voir, progressivement, elles vont se réveiller dans le dortoir. Et lorsqu'elles seront réveillées, surveillez-vous si la santé vous attaque. Comprenez-vous, c'est que vous devez prendre le temps de vous aimer, de vous aimer, de vous aimer et de ne jamais cesser de vous aimer. Alors que chaque geste, que chaque pensée, que chaque mouvement, que chaque inspire et chaque expire soit tout simplement une respiration d'amour de l'être d'amour que vous êtes. Et ça, c'est un exercice parfait. Et ce n'est pas un exercice compliqué. Nous vous dirons, dites-vous à vous-même, chaque fois que j'inspire et que j'expire, je manifeste de façon plus claire l'amour que j'ai pour moi-même. C'est comme si vous possédiez dans votre coupe du Saint Graal toute la qualité parfaite d'amour, mais que vous ne l'avez pas encore actualisée. Mais cet amour, elle est là dans sa totalité. Vous ne deviendrez pas amour, vous êtes amour. Alors, buvez à votre propre coupe, buvez l'amour pour vous-même. Comprenez qu'en la buvant, vous buvez en même temps l'énergie du Père, l'énergie du Fils, l'énergie que vous buvez le son, le souffle et la lumière, et que plus vous êtes attentif, nous dirons, à ce geste intérieur que vous posez, plus vous actualisez dans la matière cet amour que vous êtes. Et ce que nous souhaitons ce soir à chacun d'entre vous, c'est que vous ne doutiez jamais que cet amour est votre totalité, que vous êtes le divin et que le Père qui vous aime d'amour inconditionnel n'a qu'un seul désir, c'est que cet amour s'actualise dans toutes les innombrables cellule de tous les univers. Alors cet amour soit avec vous, et nous sommes avec vous, et nous marchons près de vous, et nous vous dirons, nous respirons l'amour que vous expirez, et nous vous prions d'inspirer l'amour que nous expirons. Alors nous deviendrons tous ensemble la respiration du cœur du Père. Amen.
Merci pour cet amour.
Bienvenue.
Est-ce que vous pouvez prendre d'autres questions?
Si si vous énergisez la forme, directeur.
D'accord. Alors.
Elle a laissé un peu d'énergie dans le tonneau hier.
Une que peut-être d'y répondre brièvement. Avez-vous aidé à écrire le livre Durantia? Sinon, mais qu'en pensez-vous?
Nous vous dirons que le livre Durantia a été écrit par un nombre important de personnes. Nous vous dirons qu'il y avait eu, avant ces écrits, des maîtres ascensionnés qui venaient sur le plan terrestre pour être capables de écrire, nous dirons, une forme de science qui serait davantage accessible aux êtres humains qui développaient et ouvraient leur conscience. Cependant, nous vous dirons que parmi eux, parmi les auteurs, il y a eu quelques profiteurs qui ont voulu, nous dirons, un moment où le projet a été commencé, grossir ceci pour être capable, nous dirons, d'aller chercher au niveau de l'aspect financier. Cependant, indépendamment de ceci, vous pouvez lire le livre Durantia, le laisser couler tout simplement à travers l'énergie et demander à votre moi supérieur qu'il n'en garde que les vibrations supérieures. Tout le reste retournera à la terre. Et c'est bien, mais ne jugez pas ceci.
Une dernière question ici qui fait suite à une question qui a déjà eu lieu. En relation avec la personne qui éprouve des ennuis financiers suite à l'aide apportée à un ami, j'ai eu l'impression qu'il serait tout fin seul à se sortir d'ennuis. Si cette aide a été apportée de bonne foi, est-ce juste qu'il soit seul à s'en sortir?
Nous vous dirons si vous apportez l'aide de bonne foi. Et si vous êtes de bonne foi, vous êtes dans l'amour inconditionnel. Et alors, vous pouvez donner à tous les gens que vous allez croiser, comme le jeune homme du commentaire d'ouverture qui a apporté le pain, parce que là, il pouvait le donner dans la vérité de lui-même et il pouvait l'offrir dans sa vérité. Mais il faut avoir suffisamment de discernement pour voir entre l'amour inconditionnel, la compassion et, nous dirons, l'énergie du Sauveur. Et nous vous dirons que parfois la marge est subtile. Et nous vous dirons que les gestes que vous ferez pour aider les autres, peu importe la teneur ou la vibration qui sera dedans, nous dirons que cette vibration reviendra toujours vers vous pour se multiplier, soit pour vous apprendre sur votre état de Sauveur, afin que vous puissiez vous en sortir, ou soit pour vous apprendre davantage sur ce qu'est l'amour de service et l'amour inconditionnel. Alors, rien de ce que vous donnez n'est perdu, et rien de ce que vous recevez n'est perdu. Ce qui doit être changé, ce n'est pas de donner ou de recevoir, ou de ne pas donner et ne pas recevoir, mais c'est d'avoir la conscience, une conscience qui soit le plus vrai possible selon votre état du moment, avoir la conscience que ce que vous faites, vous le faites dans la vérité avec vous-même. Nous vous dirons, il y a des gens qui supportent par exemple les enfants qui ont besoin de nourriture au Biafra et nous vous dirons, par ce support qu'ils apportent, ils peuvent régler des centaines et des centaines et des centaines de karmas uniquement par ces gestes. Alors tous les gestes, lorsqu'ils sont propulsés par l'amour, sont bons. D'ailleurs, tout est bon.
Je me permets de rajouter aussi de ne pas tomber dans le piège d'envoyer ou d'encore de participer à tous ces événements dans le but justement de sauver des vies karmiques ou de avec cette pensée.
Nous vous dirons, si vous le faisiez avec cette intention de dire, là, je vais envoyer 100 dollars ce soir et je vais régler 2000 karmas. C'est la même chose que la naïveté que vous aviez lorsque vous achetiez dans...
ou des petits chinois à 25 cents.
Mais nous vous dirons, ne jugez pas le geste que vous posez. Si dans votre cœur, vous sentez la compassion et vous dites, je suis prêt au partage et je fais ce partage, nous dirons tellement gratuitement que je ne m'arrêterai même pas à penser à savoir si cet argent sera arrêté en chemin, si c'est un voleur qui la prendra. Vous le faites avec la plus grande gratuité et le plus grand amour. Et nous vous dirons, lorsque nous disons, vous allez libérer ou vous pourriez par ce moyen libérer des aspects karmiques, vous le pouvez par des multitudes de moyens. Ceci est un moyen parmi des milliers d'autres.
Et très souvent, ceci n'est point à notre conscience même.
Et nous vous dirons, ceci est à votre conscience en temps opportun. Il faut faire le ménage, il faut laver vos intentions. Et c'est tout. C'est pas plus difficile que ça. Lavez vos intentions. Et il se pourra qu'un jour, vous croyez que vous étiez très pur dans votre intention et quelques mois plus tard, vous direz, « Ah, je me vois !» Alors, dites-vous, j'ai changé de degré de conscience puisqu'à ce moment-là, je ne me voyais pas et qu'à ce moment-ci, je me vois. Et alors, brillez avec la joie de l'univers. Nous pourrons prendre une seule dernière question, directeur. Nous devrons quitter ensuite la forme.
Bernadette, tu avais une question?
Si je comprends bien, je peux m'appliquer maintenant et arrêter l'aro karmique et le faire dans cette vie?
Est-ce que c'est dans votre pensée?
Oui, je voudrais. Est-ce que
vous voudriez ou si vous voulez?
Je veux.
Alors, mais, c'est accompli.
C'est accompli. Ce que je veux...
Mais dites-vous bien que si vous voulez ceci et que vous dites « c'est accompli », tout ce qui doit venir avec viendra.
Okay.
Comprenez bien ceci.
Okay.
En d'autres termes, si je demande la lumière, tout encodage à l'intérieur... de moi où j'ai eu des pensées ou que ce n'est pas cette lumière qui est encodée dans ces pensées-là, ben je vais vivre toutes sortes de situations pour me faire voir ces encodages-là. Pour que
et il y a des milliers de petites fusibles qui risquent de sauter. Et vous risquez de prendre quelques chocs électriques. Nous vous dirons, lorsque vous désirez manifester quelque chose dans la matière, vous en avez le pouvoir. Lorsque vous dites « je veux devenir totalement lumière », mais que vous avez des racines qui viennent de milliers de vies extérieures qui sont embourbées, ne soyez pas étonnés d'être secoués. Et ensuite vous dites « c'est terrible, j'appelle la lumière et je suis profondément bouleversée comme si j'étais sur un tremblement de terre ou sur la, nous dirons, la paroi d'un volcan ». Ne vous étonnez pas. Soyez fidèle avec vous-même, logique avec vous-même. Si vous appelez la lumière, vous recevrez la lumière. Mais vous passerez par le car wash.
Est-ce que...
Et quand vous y passerez, nous serons avec vous.
Est-ce que c'est nécessaire que je passe par le carrosse si je choisis de le faire en douceur?
Vous pouvez décider de le faire en douceur. Mais nous vous dirons que vous avez des racines têtues.
Merci, vous ne m'apprenez rien.
Nous sommes très heureuses, chère dame. C'est que vous avez déjà cette conscience. et vous savez le faire en douceur, vous aimeriez toujours mieux que tout se fasse en douceur. Mais vous devez accepter, nous dirons, comment pouvons-nous dire, la conséquence de votre création passée.
Ça, c'est très personnel. Est-ce que vous ne trouvez pas que j'ai grandi pas mal? Depuis que vous me connaissez, j'étais pire quand même.
Ça, c'est l'ego qui parle, là.
Vous avez besoin de vous rassurer?
Oui.
Alors, nous vous dirons, entrez dans votre sanctuaire intérieur, Bernadette, et rassurez-vous vous-même. Vous avez tout ce pouvoir.
Merci.
Et que la paix, et que la joie, et que la sérénité soit avec chacun de vous. Et nous vous dirons, ouvrez-vous à l'amour, appelez l'amour, et l'amour viendra. Elle viendra, bien sûr, avec son cortège de lumière, et elle viendra aussi avec son cortège de purification. Mais accueillez dans l'amour cette purification que vous vivez. Alors que la joie soit avec vous. Et bonsoir.
Nous remercions le chariot blanc ainsi que tous les êtres de lumière venus nous accompagner ce soir.
Et tous les êtres de lumière présents dans cette pièce.
Exactement.
Amen.
Et dans ce contact vibratoire, c'est comme si nous sommes un en face de l'autre.
Eh bien.
Alors à ce moment-là, que dans la vibration du son, du souffle et la lumière, que cette vibration émane sur toute la terre et dans tous les univers.
Amen.
Suivant le besoin, veillez s'il vous plaît à ajuster tout taux vibratoire, le système sanguin et tout système physiologique qui ont pu être ralentis, afin que ceux-ci reprennent leur vibration de ici et maintenant. Que ce corps se réveille se sentant pleinement régénéré et complètement équilibré.